Nous allons consacrer deux instituts bibliques, celui de ce mois-ci et celui du mois prochain, au livre de Daniel. Nous continuons la série des études sur les livres prophétiques. J'introduirai notre travail de ce matin par la lecture du second chapitre du livre de Daniel. Nous aurons l'occasion d'y faire référence dans la suite de notre temps ensemble. Je le lis tout entier. J'ai choisi ce matin la version dite à la colombe, la Bible à la colombe. Donc, Daniel, chapitre 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des rêves. Son esprit fut troublé et le sommeil le quitta. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour faire connaître au roi ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un rêve, mon esprit est troublé, parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Alors ici, je glisse une petite note pour vous dire que l'araméen, c'est une langue cousine de l'hébreu, à peu près distante de l'hébreu, comme l'italien l'est du français. Et c'était la langue diplomatique dans le grand empire de Nebuchadnezzar, l'empire babylonien. C'était la langue des échanges. Il est normal que les magiciens et autres astrologues de Babylone, c'était une caste fameuse à Babylone, aient parlé au roi en araméen. Mais ce qui est plus étrange, c'est que la suite du livre de Daniel continue en araméen. Il n'y a pas seulement les paroles que les magiciens disent au roi qui sont en araméen, mais tout le récit continue en araméen alors qu'il avait commencé en hébreu au premier chapitre, et cela jusqu'à la fin du chapitre 7. Et puis au début du chapitre 8, on revient à l'hébreu. Alors nous mentionnerons peut-être un élément d'explication de ce changement de langue tout à l'heure, mais je vous le signale dès maintenant, puisque c'est à l'endroit même où il est dit que les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne que le changement de langue pour tout le livre est fait. Les Chaldéens lui dirent donc « Ô roi, vise à jamais, dis le rêve à ton serviteur et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens « Voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je sais en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez ce que j'ai décidé. Si donc vous ne faites pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera. Vous êtes prêts à me dire des paroles mensongères et erronées en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le rêve et je saurai que vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. C'est pourquoi aucun roi grand et puissant n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort, car ils avaient été rattaché à cette corporation des sages et mages de Babylone. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve et les visions que tu as eues dans ton lit. Dans ton lit au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite. » Et celui qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer. Ses pieds, en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. De même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisera et brisera tout comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba la face contre terre, se prosterna devant Daniel et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont les autres noms de ses trois amis mentionnés déjà. Et Daniel était à la cour du roi. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous conduise dans la bonne compréhension de tout ce qui concerne sa parole. Est-ce que notre sœur, mademoiselle Laura Buisson, voudrait nous conduire dans la prière ? Amen. Nous incluons l'étude de Daniel dans la série de nos instituts bibliques sur les livres prophétiques, et notre Seigneur Jésus lui-même a appelé Daniel un prophète. Il a dit dans le discours qu'on trouve au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, le prophète Daniel. Pourtant, Daniel n'est pas rangé dans la Bible en hébreu, parmi les prophètes. La Bible en hébreu, comme dans la version en français courant, qui suit l'ordre hébreu des livres et la classification traditionnelle en hébreu, la Bible en hébreu a une première section pour la loi, une deuxième section pour les prophètes, et puis une troisième section, qu'on pourrait dire un peu fourre-tout, qui est intitulée « Les écrits ». Or, Daniel ne se trouve pas dans la deuxième section, qui a pour titre général les prophètes. Le livre de Daniel se trouve dans la troisième section des écrits. Pourquoi ? Je crois que l'explication n'est pas difficile à trouver. Daniel a bien été un prophète au sens large du terme, qui est celui de porte-parole de Dieu, de médiateur de la révélation. Daniel s'est exprimé au nom du Seigneur, et parce que le Seigneur lui avait permis de le faire. Donc, dans ce sens large, il a été prophète, comme finalement tous les auteurs de tous les livres bibliques ont été prophètes. Mais Daniel n'a pas été prophète dans un sens plus précis et plus étroit du mot. Les prophètes au sens plus étroit, plus précis, étaient des prédicateurs qui étaient envoyés à Israël pour prêcher publiquement la parole de Dieu qu'ils avaient reçue. Or, Daniel n'a pas été un tel prédicateur, au contraire d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Jérémie, qui eux ont parlé publiquement. Daniel n'était pas prophète, mais homme d'État, comme vous avez pu le constater par la lecture du chapitre 2, Il a occupé des fonctions administratives du plus haut rang, alors on peut dire haut fonctionnaire ou homme d'État, à cette époque où il n'y avait pas d'élection pour l'accession aux responsabilités de gouvernement. Ceux que choisissait le roi, c'était à la fois ses très hauts fonctionnaires et puis ses ministres. Et puis, donc, on peut dire aussi bien qu'il était un ministre d'État de très haut rang, peut-être le premier, ou qu'il était un très haut fonctionnaire. Tel a été son emploi. Et il, nulle part, il ne nous est présenté en train de faire connaître à la foule, par une proclamation publique, ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Il a répondu au roi, lui donnant des explications, bien sûr par voie orale, dans l'entrevue que nous voyons racontée et rapportée dans le chapitre 2, et à d'autres occasions aussi. Il a parlé pour donner l'explication des signes divins. Mais pour le reste, il a écrit. Et si nous avons son livre, c'est qu'il a écrit les révélations et l'explication des choses révélées selon que Dieu lui avait donné. Donc il n'a pas, au sens étroit du terme, été un prophète. Il a été un homme de vision. Il a été un sage. L'accent est mis sur la sagesse surnaturelle qui lui a été donnée, en même temps que sur les révélations spéciales sous forme de vision qu'il a reçues ou qu'il a expliquées lorsque d'autres que lui les avaient reçues. Il a fait une carrière à la Joseph, si on peut parler de cette façon. Il y a une très grande similitude, une sorte de parallélisme entre l'histoire de Joseph, exilé en Égypte, vendu comme esclave, qui réussit à devenir ministre d'État du Pharaon, parce que Dieu lui a donné l'intelligence surnaturelle nécessaire pour expliquer un rêve, et puis l'histoire de Daniel, qui de même est exilé, non pas en Égypte, mais en Babylonie, et qui est là comme un otage, un déporté, et qui va lui aussi accéder aux plus hautes responsabilités dans l'État, parce que Dieu lui donne la sagesse nécessaire pour expliquer des révélations. C'est un sage, mais un sage qui ne se contente pas de faire fonctionner ses facultés rationnelles. Oh, il le fait aussi, hein, mais qui reçoit des révélations très spéciales, que même le plus intelligent des hommes ne pourrait pas découvrir par ses propres forces. Cet assemblage de révélations spéciales et de sagesse dans la rumination de ces révélations, leur mise par écrit et les explications accompagnatrices, c'est tout à fait caractéristique des apocalypses. En fait, il y a deux apocalypses dans la Bible. Il y a l'apocalypse selon saint Jean, reçu par Jean alors qu'il était dans l'île de Patmos, et nous avons l'habitude de l'appeler l'apocalypse. Mais il y a aussi l'apocalypse donnée à Daniel, qui est l'apocalypse de l'Ancien Testament. Le genre apocalyptique porte des traits qui sont un peu différents du genre prophétique. Bien sûr, il n'y a pas de coupure entre les deux, et d'ailleurs le mot prophète est employé dans l'Apocalypse de saint Jean à plusieurs reprises. Donc il ne faut pas séparer, il ne faut pas opposer, mais il y a quand même des différences, une distinction possible dans les Apocalypses qui sont écrites, qui ne sont pas prêchées sur la place publique. On remarque qu'il y a beaucoup plus de symboles, un langage chiffré, alors que les prophètes parlent avec beaucoup d'images, ils ne peuvent pas utiliser une sorte de langage codé avec tout un réseau de symboles qu'il faudra interpréter systématiquement. Parce que leurs auditeurs n'auraient pas le temps, quand ils sont en train de parler, de décoder ces choses. En revanche, lorsqu'il y a un texte écrit, on a le temps. On peut chercher que veut dire ce symbole, que veut dire oui. Donc, dans les écrits apocalyptiques, dans les apocalypses, le mot voulant dire révélation, il peut y avoir un langage chiffré. Les chiffres, en général, sont de valeur symbolique, pas tous forcément, mais en général. Et puis, la vision s'élargit. Au lieu que le message porte sur des événements très particuliers, juste comme ça, c'est souvent des visions qui nous déroulent en quelque sorte tout l'avenir que Dieu prépare, qui sont en cause. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans le livre de Daniel, comme dans l'Apocalypse du Nouveau Testament. C'est en quelque sorte panoramique, cosmique, dans l'ampleur de la vision, beaucoup plus encore que chez les prophètes. Et du fait même que c'est l'histoire du monde qui se déroule sous nos yeux, l'accent pourra être beaucoup plus nettement marqué sur l'origine au-delà du monde, l'origine céleste du salut que Dieu prépare. Ça aussi, c'est un accent très fortement marqué dans les deux apocalypses, celle de Daniel et celle de Jean. Donc le livre de Daniel, livre de sages recevant des révélations de la part de Dieu, et, qu'on appelle donc apocalyptique dans le langage des techniciens, est un livre très soigneusement composé avec des symétries. Je ne vais pas entrer dans le détail des plans, mais je suis obligé d'ajouter un mot pour achever mon introduction, puisque j'en suis encore à l'introduction. C'est qu'un livre de type apocalyptique généralement suscite de grandes controverses parmi ceux qui l'étudient. Comme il est plus travaillé, comme il a un langage plus codé, vous avez des disputes. C'est un livre extraordinaire et vous avez des disputes parmi ceux qui l'interprètent ou même qui essayent de le situer dans l'histoire. Et le livre de Daniel est comme une pomme de discorde entre les spécialistes. Je ne peux pas vous le cacher. Les critiques qui ne prennent pas la parole de Dieu avec tout l'entier respect qui lui est dû ont eu tendance en général à dire « Oh mais ce n'est pas en fait un livre venant du vrai Daniel au VIe siècle avant Jésus-Christ. Non, non, en fait, il a été fabriqué bien longtemps après, etc. » Il y a un livre qui a été écrit évoquant ces attaques des critiques, comme on les appelle, lancées contre le livre de Daniel, qui s'intitule « Daniel dans la fosse aux critiques ». Et puis, parmi les évangéliques même, tous ne sont pas d'accord sur le sens qu'il faut donner, malgré la présence d'explications, aux diverses visions et aux divers commentaires que nous trouvons dans le livre de Daniel. Alors, je ne vais pas entrer dans ces instituts bibliques, dans les controverses. Je vais éviter de vous parler d'une thèse et puis des arguments pour et puis des arguments contre, en tout cas, sauf exception. Je vais éviter de le faire. Ça ne convient pas à la brièveté du temps que nous avons ensemble. Je vais donc vous livrer les conclusions que je crois justes. Alors, je vous rassure un tout petit peu en vous disant qu'elles correspondent, en gros au moins, à l'avis majoritaire parmi les docteurs évangéliques. Je ne dis pas qu'ils soient unanimes, mais je dis que les positions auxquelles j'ai été conduit, et avec l'aide de ceux qui ont écrit avant que j'aborde moi-même une telle étude, bien sûr, c'est que les conclusions auxquelles j'aboutis sont celles que je crois le plus souvent admises parmi les gens qui sont à la fois compétents, langues originales par exemple, qui ont une formation adéquate et qui sont évangéliques, c'est-à-dire qui confessent l'autorité entière, la vérité absolue de toute la Bible. Je parlerai du livre de Daniel sous trois sous-titres, j'aurai trois subdivisions si vous voulez, en laissant en tout cas la troisième pour la fois prochaine, peut-être que même la deuxième, je serai obligé d'en laisser quelques éléments pour la fois prochaine, mais j'ai prévu plutôt deux sections aujourd'hui et puis une troisième au mois de juin. Les épreuves surmontées, l'aspect qui correspond davantage à la biographie de Daniel, qui permettra de situer le personnage. Les empires symbolisés dans trois grands chapitres en particulier, et puis les semaines ou septaines décrétées, qui sont l'objet d'une prophétie particulière au chapitre 9, avec développement, au moins sur certains points, dans les chapitres qui suivent, jusqu'à la fin du livre. Alors cette question des 70 semaines, si vous préférez, et de la fin du livre, je la laisse, cette question, à la fois prochaine. Mais aujourd'hui, j'essaie de résumer ce qui concerne le témoignage et le personnage même de Daniel, auquel il faut associer ses trois compagnons que vous avez entendu nommer dans la lecture du chapitre 2 tout à l'heure, et puis ce qui concerne donc les empires mondiaux d'après trois visions du livre. Daniel, vraiment je pourrais dire qu'avec ses compagnons, il se dresse comme l'un des premiers martyrs, au sens propre du terme témoin. Le martyr, martus en grec, hein, c'est simplement le témoin. Ça ne veut pas forcément dire mise à mort. Daniel et ses compagnons, dans un environnement païen, a tenu bon comme le témoin de la vérité du Dieu des cieux, du vrai Dieu opposé aux idoles, du Dieu qui s'était révélé à Israël. Il a tenu bon malgré l'opposition, malgré le danger, frisant la mort à plus d'une reprise, nous allons y revenir. Ce qui fait que le mot de martyr convient bien. Et on peut dire que c'est le premier, parce qu'en Israël, ce n'était pas la même situation. La religion de l'Éternel était établie. Et s'il y a eu de l'idolâtrie, c'était une corruption. Mais Daniel et ses compagnons se sont trouvés, eux, en terre païenne, un peu comme nous, les témoins du Seigneur Jésus. Nous sommes dans un monde qui ne le connaît pas, un monde qui est livré à ses idoles. Il y a une plus grande similitude entre la situation de Daniel et la nôtre qu'entre celle des autres personnages de l'Ancien Testament en général, et puis la nôtre situation de chrétien dans un monde païen. Daniel, avec ses compagnons, se dresse comme un témoin qui a été capable de tenir bon sous la pression, sous la persécution. Et je discernerai trois grands moments de ce témoignage de Daniel. Un qui se situe au début de sa vie, un qui se situe quelque part dans le cours de son existence, on ne sait pas la date exacte, et un troisième moment qui se situe vers la fin de sa vie, à la fin de sa vie certainement. Alors, premier grand moment, celui de sa déportation et de ce qui a suivi des premiers temps à Babylone. Je vous rappelle la situation, nous l'avons vue en parlant du livre de Jérémie, en parlant du livre d'Ézéchiel. Je vous refais la carte du Moyen-Orient, là c'est la Méditerranée, là c'est la mer Rouge, là c'est le golfe Persique. Juda, capitale Jérusalem, vous le savez, a connu à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ vraiment son agonie, et au début du 6e, c'est-à-dire avant et après l'an 600. Comme les prophètes en avaient averti le peuple, les châtiments ont fini par atteindre ce royaume si souvent rebelle et par conduire à sa destruction, y compris la destruction du temple. Ça s'est fait après une longue période de domination assyrienne. Les Assyriens avaient été la grande puissance du Moyen-Orient. C'est dans l'Irak actuel que correspond que se trouverait le foyer de leur puissance. Ils avaient traité Juda un peu comme un état vassal. Mais ils ont été battus vers la fin du 7e siècle, avant Jésus-Christ donc, par les Babyloniens. Babylone était une province de leur empire. Tout ça se situe en Irak actuel. Les Babyloniens ont défait la puissance assyrienne et sont devenus les maîtres de tout le Moyen-Orient. Et Dieu avait décidé que les Babyloniens seraient l'instrument de ses jugements contre Juda et contre ses rois impies en particulier. Nous avons vu cette histoire en parlant de Jérémie et d'Ézéchiel. Conduits par Nebuchadnezzar, les Babyloniens ont triomphé de tous leurs adversaires, en particulier des Égyptiens, qui constituaient la seule puissance, une fois les Assyriens abattus, capable de tenter une résistance. Les Babyloniens sont devenus les maîtres de toute cette région. Alors, ils ont, après leur grande victoire de Carchemish en 605, lorsqu'ils ont battu les Égyptiens, Nebuchadnezzar venait, lui qui était le prince héritier depuis évidemment pas mal de temps, à la mort de son père, de prendre le pouvoir. Nebuchadnezzar a battu le pharaon Nekao à Carchemish en 605, mai-juin, probablement de cette année. Et à ce moment-là, alors, il a conquis toute la zone qui correspond donc au rivage de la Méditerranée, y compris Juda, et il a soumis le petit royaume de Juda et sa capitale Jérusalem et son roi Joachim à son pouvoir en 605, deuxième partie de l'année 605. Mais Joachim, quand les armées babyloniennes sont reparties plus près de leur base d'origine, a cru qu'il pourrait se révolter, à l'instigation des Égyptiens d'ailleurs. Ce qui fait que les armées babyloniennes ont dû revenir pour soumettre ce rebelle. En 597, la ville de Jérusalem a été prise par les armées babyloniennes et son roi a été fait prisonnier et emmené captif en Babylonie, le roi Joachim. Et puis une partie de la population a été emmenée en déportation, plusieurs milliers. Tous les bons artisans qualifiés, une certaine élite de toute cette population. Et puis le roi Nebuchadnezzar a mis sur le trône un prince de la famille royale dont il espérait qu'il se tiendrait tranquille. Il lui a donné son nom, Sédécias, pour bien montrer que c'était sa créature. Oui. Et puis il est reparti après 597. Mal conseillé, faible comme il était, malgré les avertissements de Jérémie, Sédécias à son tour s'est révolté, croyant que les Égyptiens pourraient l'aider. Et les armées babyloniennes sont revenues encore une fois, 10 ans plus tard, 587, et elles ont, alors cette fois, complètement détruit la ville, détruit le temple, mis fin à la royauté. Le roi Sédécias a été fait prisonnier, on a égorgé tous ses fils devant lui, puis on lui a crevé les yeux pour que ça reste la dernière image qu'il ait en mémoire. Donc, ça a été vraiment là une situation terrible. Je vous rappelle donc ce que nous avons vu, même un peu plus en détail. En 597, lors donc de la première grande prise de la ville après siège, Ézéchiel a été déporté. Il a fait partie de ces quelques milliers déportés en Babylonie. Jérémie, lui, est resté à Jérusalem. Et en 587, quand la ville a été prise, les Babyloniens qui savaient ce qu'il avait prêché lui ont laissé la vie sauve. Il n'a pas été déporté comme le reste de la population. Mais finalement, les quelques compatriotes qui étaient restés en Juda avec lui, après d'autres péripéties, l'ont entraîné en Égypte. Et c'est là qu'il est mort. De force, ils l'ont traîné avec eux. Où se situe Daniel dans ce schéma historique? Sa déportation à lui date déjà de 605. 605, c'est tout de suite après la victoire de Carchemish sur l'Euphrate, donc le moment où le roi Nebuchadnezzar est arrivé à Jérusalem et a obligé Joachim à se comporter en vassal. Il n'y a pas eu de grande prise de la ville. Joachim, là, s'est soumis facilement, à contre-cœur, mais facilement. Et il est donc resté en place sur le trône. Et le roi Nebuchadnezzar a emmené avec lui, comme captif, un certain nombre d'otages. Ce n'est pas une première déportation très, très massive, pas du tout. Ce n'est pas plusieurs milliers, mais combien? Quelques dizaines peut-être. De jeunes gens, de garçons, des familles de l'aristocratie jérusalémite, pris comme otage. Ils se disaient, si j'ai leurs enfants, je vais comme ça m'assurer contre une révolte possible, une fois que je serai reparti, si j'ai leurs enfants avec moi. Alors il a choisi parmi les familles de la haute aristocratie de Jérusalem, les familles dirigeantes de Juda, un certain nombre de jeunes gens, et puis il a fait d'une pierre deux coups, c'était sa politique. Non seulement il les prenait comme otages, mais il allait s'en faire son personnel administratif de haut niveau. Il allait les former dans son école nationale d'administration, à l'ENA de Babylone, pour qu'ils soient ses hauts fonctionnaires. Sans racine à Babylone, ils seraient forcément entièrement dociles à l'égard du pouvoir. Donc c'était vraiment des fonctionnaires. Alors il les a bien choisis, sélectionnés, sans aucun défaut, des jeunes gens intelligents, bien faits et tout. Et Daniel, dont l'historien juif Flavius Joseph nous dit qu'il était de sang royal, Daniel a été de ses otages. Alors quel âge avait-il exactement? Probablement aux alentours de 15 ans. Bon, les estimations peuvent aller de 12 à 20 ans. On n'a pas d'indication très précise, mais le mot qui est employé est employé pour Joseph quand il avait 17 ans, donc on peut dire une quinzaine d'années, en gros. Donc en 605, âgé d'une quinzaine d'années, Daniel, qui fait partie donc d'une des meilleures familles, probablement de sang royal, à Jérusalem, est emmené captif avec plusieurs compagnons à Babylone. Et là, double épreuve qui va lui permettre vraiment d'acquérir cette figure du témoin fidèle face à l'adversité qui est vraiment sa stature. Au premier chapitre, c'est un épisode dont les enjeux ne nous paraissent pas énormes, mais quand même c'était déjà sérieux. Une question de diététique, semble-t-il. Comme ils sont formés pour le service du roi, ils sont à la cour et on veut les faire manger les bons repas du roi. C'est leur privilège. Puis on se dit, s'ils mangent comme le roi, ils vont prospérer, être de beaux athlètes. Mais seulement, certains de ces aliments sont impurs d'après la loi de Moïse. Et Daniel qui veut être fidèle à son Seigneur, avec ses trois amis les plus proches, ils ne vont pas manger tout ce qui passe là sur la table du roi. Alors vous remarquez à quel point déjà Dieu lui a donné d'être sage. Il n'adopte pas la pose du martyr, allant comme ça, voilà, je ne veux pas, s'offrant immédiatement aux coups les plus rudes. Vous remarquez son intelligence? Il va voir le responsable en disant, tu ne veux pas faire un essai avec nous? Nous mangerons, nous, des légumes, selon notre... Tu verras, nous serons en aussi bonne santé que les autres. Laisse-nous essayer. Il arrange les choses. Un diplomate qui ne veut pas casser les vitres, mais qui veut obéir avec sagesse dans les circonstances adverses. Alors il obtient ce qu'il demande. C'est une épreuve, parce que si jamais, c'était de cela que le chef... responsable avait peur. Hein. Si jamais il s'était mis à avoir grise mine, le roi aurait dit, mais enfin, comment se fait-il que ceux-là soient en mauvaise santé? Et s'il avait découvert qu'ils ne mangeaient pas comme il nous aurait dit, oulala là là. Mais le Seigneur répond à la prière et honore la fidélité de Daniel et de ses compagnons, et en fait, ils sont en bien meilleure forme que tous les autres. Première épreuve, surmontée par la grâce de Dieu, par le témoin fidèle. Deuxième épreuve, celle du chapitre 2. Le roi a un rêve qui le trouble beaucoup. Il va en avoir l'explication, mais ou bien il a vraiment oublié le rêve, ou bien il prétend simplement l'avoir oublié. Il sait que les mages et autres astrologues, ils réussissent toujours à s'arranger. Pour le baratin, ils sont très forts. Donc, cette fois, il veut vraiment les mettre à l'épreuve. Il veut avoir l'explication. Il dit, vous ne me donnez pas seulement l'explication, mais le rêve lui-même. Vous me dites ce que j'ai rêvé. Alors les pauvres, ils lèvent les bras au ciel, quoi, mais c'est impossible. Jamais on ne nous a demandé ça, évidemment. Et le roi du coup s'emporte, veut faire mettre à mort tous ceux qui relèvent de cette corporation. Et Daniel et ses compagnons, parce qu'il y avait des liens entre cette corporation, c'était les mages, c'était les sages en même temps, donc et les postes d'administration dans le royaume, Daniel et ses compagnons doivent être dans la charrette de l'exécution massive que le roi a décidée dans sa fureur. Alors, c'est une nouvelle épreuve. Et nous avons lu comment Daniel et ses compagnons la surmontent. De nouveau, ils obtiennent, voyez, diplomatiquement, un délai. Et puis, ils prient le Seigneur révèle, et avant même d'apporter la réponse au roi, ils prennent le temps de rendre grâce, de louer le Seigneur. Vous avez remarqué cette si belle prière. Et puis, Daniel, donc, dit au roi, avec tous les commentaires voulus, quel a été le rêve et quelle en est l'explication. Deuxième grande épreuve. Mais tout ça se situe au début de la vie de Daniel. Plus tard, on ne sait pas exactement à quel moment, il y a eu un autre moment très, très intense. C'est surtout les compagnons de Daniel, les trois amis, qui ont été spécialement touchés. Ça nous est rapporté donc au chapitre suivant, 3 et 4. Au chapitre 3, pour ses compagnons de Daniel. Le roi, dans une période où, semble-t-il, il était en paix, se gonflant d'orgueil, a édifié une immense idole en ordonnant que tout le monde l'adore. Alors, Daniel n'est pas mentionné dans ce chapitre 3. Il était probablement en inspection dans les provinces. Il n'était pas lui-même directement touché. Mais les trois compagnons ont refusé l'idolâtrie. Et le roi furieux a donné l'ordre de les jeter dans une fournaise surchauffée, dans un feu d'enfer. Et ces trois jeunes gens ont été jetés dans cette fournaise. Et alors, extraordinaire, un miracle, comme il y en a peu, même dans la Bible, ailleurs. Un miracle vraiment qui a suspendu toutes les lois de la nature. Ces trois hommes ont été parfaitement préservés dans ce feu. Et le roi qui observait la scène, à quelques distances, pour ne pas être complètement rôti lui-même, a vu qu'il n'y avait pas seulement les trois, mais quelqu'un qui avait l'apparence de fils de Dieu avec eux. Un miracle, là encore, d'épreuve surmontée, tout à fait extraordinaire. Et puis, je pense qu'il faut lier à cet épisode celui du chapitre suivant, où le roi a de nouveau un rêve, et où il est aussi question de son orgueil, comme donc au chapitre 3. Il a un rêve qui peut-être n'était pas si difficile à interpréter, où le roi qui s'était laissé emporter par un mouvement d'orgueil voit un grand cèdre, un grand arbre, qui est abattu, qui est laissé pendant 7 ans dans l'herbe, dans la rosée. Et Daniel explique, qui est convoqué pour donner l'explication, il a pu avoir peur, hein, de devoir donner une telle explication, que ça voulait dire que le roi allait être frappé, qu'il allait être abattu de sa splendeur, qu'il allait être comme les animaux à manger de l'herbe et à vivre tout nu dans l'herbe mouillée pendant 7 ans. À titre de châtiment pour son orgueil envoyé par le Dieu des cieux. Oser dire ça au roi, il l'a fait fidèlement. Encore une épreuve. Et le roi a eu la sagesse, là, de respecter cette parole. Le châtiment est venu sur lui. On peut certainement expliquer ce qu'il en a été. Il est devenu fou. C'est certainement un cas de boanthropie. Il y a des cas, c'est répertorié dans les annales de la psychiatrie, assez fréquents de lycanthropie, où des gens se croient des loups et se comportent comme des loups. Ça s'appelle la lycanthropie. Il existe des cas plus rares, mais ça existe aussi de boanthropie, où les gens se croient des bœufs. Alors il broute de l'herbe, il se refuse de tout habit, etc. Le théologien évangélique Harrison, dans son introduction à l'Ancien Testament, dit qu'il a lui-même observé en 44-45, il s'est trouvé sans doute mobilisé dans un hôpital psychiatrique, et il a observé un cas de boanthropie. Le roi Nebuchadnezzar, certainement, a été frappé d'une telle maladie mentale pendant donc 7 ans. Est-ce que c'est 7 ans? Pas forcément, difficile de savoir exactement. Donc ça, c'était la deuxième phase de Daniel, celle qui se situe tout à la fin, quand ce royaume babylonien s'était établi donc à partir de 610-605 avec Nebuchadnezzar, quand ce royaume babylonien a été à son tour abattu par le royaume des Mèdes et des Perses, conduit par Cyrus le Grand. Babylone a été prise en 539 et Cyrus est devenu le maître de tout ce Moyen-Orient. Ce Cyrus, qui est le même que Darius le Mède, parce qu'il avait deux noms. Il était Mède par sa mère et Perse par son père, descendant de la dynastie royale dans les deux cas. Et pour cela même, il portait deux noms. Dans le verset du chapitre 6, verset 29. Donc, Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Il faut comprendre le « et » dans le sens « à savoir ». C'est un seul et même personnage, d'après les études qui me paraissent les plus convaincantes de spécialistes évangéliques. C'est exactement la même tournure qu'on a dans 1 Chroniques 5, 26. Là aussi, il y a deux noms de rois avec « et », mais en fait, on sait parfaitement bien par l'histoire, ça ne s'est pas discuté, que ce sont deux noms du même roi, du même individu, et que la conjonction en hébreu doit être traduite « à savoir ». C'est-à-dire, donc on doit traduire « Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius », c'est-à-dire sous le règne de Cyrus le Perse. C'était un roi avec une double identité, Mède et Perse. Alors donc, c'est ce Cyrus Darius qui triomphe de Babylone en 539. Alors à cette occasion, nouvelle épreuve, double avec interprétation d'oracle pour Daniel, juste avant la prise de Babylone, en 539, le roi, en fait c'est le fils du roi, mais c'est lui qui exerce le pouvoir à Babylone, Belshazzar, donne un grand festin. Les armées médo-perses sont à la porte, mais il croit que ces murailles vont tenir, et il donne un grand festin, et au cours de ce festin, ils sont plus ou moins pris de vin, alors on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais ils croient voir une main qui écrit quelque chose sur le plâtre du mur. Et puis, il y a une inscription, en effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne réussit à comprendre, les mages ne réussissent pas, etc. Et puis, la mère de Belshazzar, la reine-mère, donc, dit, « Mais je me rappelle autrefois, il y en avait un de Juda, là, qui était capable de trouver l'explication quand personne ne l'a trouvé. C'est Daniel. Alors, on va le chercher. » Il était vieux, il avait 80 ans, là, à peu près. On va le chercher, on lui demande. Mene, mene, tekel, faxine. Il donne l'explication. Compter, compter, peser, diviser. Il annonce à Belshazzar la fin de son règne, la division du pays qui va être conquis par les Mèdes et les Perses et que lui-même va mourir. Ça, c'est une épreuve. Il devait de nouveau donner une explication et puis, dont il triomphe. Et alors, le roi perse, Cyrus Darius, devient le souverain. Et bien sûr, il a dû savoir ce qui s'était passé. Il élève Daniel, de nouveau, à des positions très importantes, le vieux Daniel. Mais des gens, des intrigants qui sont jaloux, essaient de trouver le moyen de nuire à Daniel et de l'abattre. Ils savent bien qu'ils ne pourront trouver aucune irrégularité dans sa gestion, qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut opposer Daniel à son roi, c'est sa fidélité à la loi de Dieu. Alors ils réussissent à persuader le roi Darius Cyrus de se faire adorer, que toutes les prières devront dites à son adresse. Alors le roi se laisse faire, oui d'accord, s'est proclamé, mais Daniel, lui bien sûr, n'en tient aucun compte. Fidèle témoin de son Seigneur, il continue à prier le seul Seigneur, comme il le faisait auparavant, 3 fois par jour. Et alors, bien sûr, les autres qui n'attendaient que ça, qui l'avaient bien prévu, le dénoncent, et le roi, à contre-cœur, parce qu'il estime beaucoup Daniel, dit, bon, ben d'accord, il faut le jeter dans la fosse aux lions. Et il est jeté dans la fosse aux lions, et le roi, il dort très mal cette nuit-là. Et le matin, il a quand même un petit espoir, c'est fou, mais Daniel, Daniel! Et Daniel a été entièrement préservé par l'action miraculeuse de Dieu. Et ce sont ses détracteurs qui sont jetés dans la fosse. Double épreuve à la fin de la vie de Daniel. Voilà pour ce qui concerne le personnage et le grand schéma de sa vie. Il me semble que nous pouvons nous rappeler spécialement 2 choses lorsque nous considérons l'ensemble de sa vie et quelles leçons nous pouvons en tirer. La première, c'est que le Seigneur sait délivrer ses fidèles qui sont dans l'épreuve et sous la persécution. Il sait les délivrer. Ça ne veut pas dire qu'il le fait toujours automatiquement. L'Épître aux Hébreux nous dit bien que par la foi, certains ont été mis à mort. Mais il nous est précieux de savoir que le Seigneur a la puissance et la vigilance, si ça correspond à ses plans de sagesse, de délivrer d'une façon parfois extrêmement spectaculaire. Et cela vaut toujours pour nous, nous pouvons nous le dire. Deuxième leçon, quand il y a une délivrance, c'est bon jusqu'à la prochaine fois. Je crois que ça, c'est aussi important de le noter. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que quand il y a une victoire spirituelle qui a été remportée, maintenant, ça y est, on peut se relâcher, on peut... Il y a bien des périodes de répit, mais le diable revient à l'attaque. Daniel, il avait connu ces épreuves terribles au début de sa vie. À 80 ans, il pouvait se dire, bon, maintenant, je suis à la retraite, je me la coule douce, maintenant, je risque plus rien. Et le Seigneur a permis de nouvelles épreuves, peut-être encore plus graves, jetées dans la fosse aux lions, que celles de sa jeunesse. Même pour le Seigneur Jésus, il a été dit que quand le diable, ayant essayé de le tenter et n'ayant pas réussi, s'est éloigné, il s'est éloigné jusqu'à une occasion favorable. C'est ce que l'évangile de Luc dit au chapitre 4, verset 13. Et cela doit aussi demeurer dans notre pensée pour que nous restions vigilants. Alors, je ne vais pas avoir le temps de traiter en détail le deuxième point, les grandes visions, mais je vous introduis quand même ce sujet dont nous parlerons donc la fois prochaine. Il y a 3 chapitres où il est manifestement question sous des formes symboliques des grands empires qui se sont succédés dans l'histoire même du monde à partir du temps de Daniel. Il y a les chapitres 2 et 7. Il est manifeste qu'ils se correspondent. D'abord, ils se trouvent au début et à la fin de la partie en araméen. C'est assez intéressant. Ils ont là une position de symétrie. Dans les 2 cas, il y a 4 royaumes ou empires, plus un 5e, ou plutôt un qui ne porte pas de numéro. 1, 2, 3, 4, et puis l'empire, on pourrait dire Oméga. Donc ils se correspondent très clairement. Et puis alors il y a le chapitre 8, qui correspond aussi assez clairement à certains éléments du chapitre 7. C'est le même langage, il s'agit d'animaux, qui représente des royaumes, c'est clair, c'est dit, comme au chapitre 7. Donc on peut vraiment associer le chapitre 8 à ces deux autres chapitres 2 et 7. Il est encore question de royaumes et d'empires plus loin, mais ils ne sont plus symbolisés de la même façon qu'au chapitre 2, 7 et 8. Pourquoi le chapitre 8 est-il en hébreu alors que les chapitres 2 et 7 sont en araméen? Ça fait déjà partie des questions d'interprétation, mais je crois que je peux donner dès maintenant une indication. Les chapitres 2 et 7 me semblent nous montrer les royaumes selon l'histoire du monde. Il s'agit des empires universels et au terme du quatrième de ces empires, ce sont des choses qui intéressent le monde entier qui se passent. En revanche, au chapitre 8, il s'agit davantage de royaumes qui ont intéressé la terre d'Israël et la ville même de Jérusalem. L'accent porte sur ce que fera un roi du deuxième royaume en cause au chapitre 8 à Jérusalem. Et c'est pour ça que le texte est en hébreu. Les perspectives sont moins larges, il s'agit de se concentrer davantage sur la terre même du peuple élu. Je crois que c'est pour ça que nous avons l'araméen, langue diplomatique mondiale de l'époque, pour chapitre 2 et 7, et l'hébreu au chapitre 8. Alors, je vous montre simplement les correspondances, et puis j'en resterai là aujourd'hui, je m'en contenterai, et puis nous essaierons de trouver les explications la fois prochaine. Mais je vous montre déjà les correspondances. Au chapitre 2, vous avez quatre grandes parties de la statue, qui représentent des royaumes, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Vous avez la tête d'or, vous avez la poitrine avec les bras d'argent, avec les chiffres 2 qui est assez caractéristique puisqu'il y a les deux bras. Vous avez le bassin avec les cuisses en bronze, et vous avez les jambes et les pieds fer argile. Eh bien, vous trouvez au chapitre 7 très clairement les correspondances. Vous avez d'abord comme premier animal qui monte de la mer un lion avec des ailes d'aigle. Les deux rois de la faune correspondante terrestre et de l'atmosphère, lion et aigle, ça correspond à la noblesse de l'or et de la tête. Vous avez donc lion l'aigle. Vous avez ensuite l'ours. Et l'ours, il est surtout appuyé d'un côté, il y a une dissymétrie. Il y a donc un chiffre 2 qui le caractérise, mais asymétrique. Ce qui n'était pas indiqué au chapitre 2. Il y avait deux bras, mais il n'était pas dit que l'un était plus gros que l'autre ou plus haut que l'autre. Mais l'ours, là, il se tient appuyé d'un côté. Donc, c'est quelque chose qui est mentionné pour que nous y fassions attention. Ça doit avoir un sens. Et puis, d'autre part, il a trois côtes dans la gueule. Il y a ce 2 et ce 3 qui le caractérisent. Puis, vous avez le léopard. Animal qui évoque la rapidité extrême. Et lui, alors, il est caractérisé par le chiffre 4. 4 têtes. Et puis vous avez, finalement, un monstre innommable qui a des dents de fer. Donc, vous retrouvez le fer, ça correspond, avec 10 cornes, et une petite corne qui monte parmi les 10, qui en abat 3, et qui devient, alors, horrible, blasphématoire. Vous voyez la correspondance. Et alors, au chapitre 8... Vous avez un bélier qui est aussi caractérisé par le chiffre 2. Il a deux cornes. Donc c'est une correspondance qui nous permet tout de suite de mettre le bélier en correspondance avec l'ours. Ici, deux cornes, dont une est plus haute que l'autre, avec donc une asymétrie. Et puis il s'étend en trois directions, l'ouest, le nord et le sud. correspond aux trois côtes. Donc vous avez une très bonne correspondance entre le bélier du chapitre 8 et l'ours du chapitre 7. Et puis vous avez le bouc, qui lui aussi est caractérisé par le chiffre 4, qui va abattre le bélier. Le bouc, il a une très grande corne au début, mais cette corne se brise, et à la place, il y en a 4. Donc vous avez la correspondance avec le léopard. Et il nous est dit qu'il va très très vite, hein, ce bouc aussi, quand il heurte le bélier. Donc la vitesse du léopard est aussi caractéristique du bouc. Donc il n'est pas douteux que nous avons une correspondance comme je vous montre au tableau. Puis alors en plus, donc, il y a le royaume Oméga, hors série, petite pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui brise la statue et qui devient une immense montagne qui remplit toute la terre, au chapitre 2. Et quelqu'un comme un fils d'homme, comme un être humain, qui vient sur les nuées du ciel et qui reçoit l'Empire éternel et qui est solidaire du peuple des saints du Très-Haut persécuté, dans le chapitre 7. Alors, je vous dis quelles sont les identifications que nous ferons, mais nous y reviendrons donc la fois prochaine. La tête d'or, le lion-aigle, pas le moindre doute, c'est dit, hein, nous l'avons lu. La tête d'or, c'est toi, ô roi. C'est l'empire babylonien, le royaume babylonien de Nebuchadnezzar et de ses successeurs. À coup sûr, la tête d'or, c'est l'empire babylonien. La poitrine, l'ours, le bélier, là aussi, c'est vraiment pas difficile. Le bélier, c'est dit dans le chapitre 8, c'est dit en clair, le bélier, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. C'est l'empire médo-perse. Le chiffre 2 qui le caractérise correspond à cette dualité, les Mèdes et les Perses. Cyrus, Darius, est devenu si fort justement parce qu'il a uni les Mèdes et les Perses. Il était lui-même issu des deux familles royales, il a uni ces deux peuples, dont les qualités étaient complémentaires. Les Mèdes étaient des montagnards guerriers, les Perses étaient des administrateurs bons gestionnaires, et donc ils ont uni leurs forces sous la direction de Cyrus Darius, et du coup l'Empire est devenu le grand empire de tout le Moyen-Orient. Donc, le chiffre 2, vous voyez, avec une dissymétrie, parce que les Perses l'ont vite emporté sur les Mèdes. Une fois les victoires remportées, ce sont les Perses, avec leur sens de l'administration, et qui sont devenus prépondérants. D'où une corne plus haute que l'autre, un côté de l'ours plus haut que l'autre. Et les trois côtes correspondent aux trois orientations des conquêtes de Cyrus à partir de sa base. Le léopard bouc correspond au bassin de bronze. C'est l'empire qui est venu après, l'empire médo-perse, dans l'histoire, qui en a triomphé. Et c'est dit au chapitre 8, ce sont les rois de Yavan, c'est-à-dire la Grèce. C'est l'empire grec d'Alexandre le Grand, qui est représenté par la grande corne, qui est brisée et qui laisse place à 4. L'empire d'Alexandre, à sa mort, a été divisé entre ses généraux, et 4 royaumes ont suivi ce début d'empire. Alors ils ont constitué l'empire hellénistique, mais sans une direction centrale. Il y a 4 royaumes, avec 2 d'entre eux, cela est détaillé au chapitre 8, qui ont spécialement concerné le territoire de Juda, le royaume de Syrie, le royaume grec de Syrie et le royaume grec d'Égypte, au nord et au sud pour Juda. Et alors le quatrième, c'est l'empire romain. Pourquoi un tel monstre faire? Certains ont dit c'est parce que le lien dans cet empire c'était un lien beaucoup plus artificiel, le droit romain, plutôt que le sentiment organique d'une population unique. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Non, en tout cas, c'est l'empire qui est présenté comme le plus puissamment opposé à la religion du vrai Dieu, le plus blasphématoire de tous. Empire romain, avec la petite corne du monstre ici qu'on appelle très souvent l'Antichrist. Alors là, il y a une difficulté sur laquelle nous aurons à revenir, puis je m'arrête là. Cet empire romain, représenté ici comme le numéro 4, est-ce que c'est seulement l'empire romain passé, ou est-ce que nous devons prévoir une sorte de reconstitution de cet empire romain? Est-il même reconstitué à l'heure actuelle, ou non? Là, il y a des débats parmi les interprètes évangéliques. Je crois qu'on peut dire, en tout cas, c'est l'empire romain. Et c'est comme ça que même parmi les juifs, on l'avait compris, hein, Flavius Joseph l'avait compris ainsi au 1er siècle. Mais est-ce que c'est seulement première phase, deuxième phase? Nous y reviendrons. En tout cas, vous avez une petite idée donc, de ce schéma des empires. Et nous essaierons d'y revenir la fois prochaine, Dieu voulant. Voilà, alors je me rends compte que ce sont les questions d'interprétation que nous avons juste abordées aujourd'hui qui peuvent susciter beaucoup de questions pour vous. Si vous en avez une, vous pouvez la dire, mais je pense que c'est plutôt la fois prochaine que nous pourrons avoir des questions.